Le grand témoin. Heureuse de vous retrouver en ce dimanche 18 août 2013 pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Il s'appelle Jean-Bertrand Ewangai Isewangai Iwoka. Il est homme politique congolais, cofondateur de l'UDPS, ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Actuellement, il est secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. C'est un parti politique de l'opposition. Monsieur Wanga, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci madame pour m'avoir associé à l'émission.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs des radios Capi. C'est vrai que Jean-Bertrand Ewanga n'est pas un nom inconnu en RDC.
Sûrement, madame.
Oui, voilà. Mais nous, on va aller au-delà des fonctions politiques que vous avez assumées, qui sont d'ailleurs à la base de votre renommée.
Oui.
Voilà.
Une renommée modeste, il faut le dire aussi.
On va aller au-delà, on va entrer un peu dans votre intimité, monsieur Ewanga. Et d'ailleurs, avant de parler de votre parcours politique, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance.
Oui.
Vous êtes né un certain 25 novembre 1952 à l'Équateur.
À Mondombe, précisément dans le territoire d'Ikela, district de la Tuapa.
Alors c'est là que vous avez passé votre enfance?
Oui, toute l'enfance. Je suis le fils d'un enseignant où j'ai étudié dans les écoles missionnaires protestantes. C'est alors que je terminerai à Mondombe mes études primaires pour poursuivre mon cycle d'orientation dans les années 68 à Boindé.
Toujours dans la province de l'Équateur?
Toujours dans la province de l'Équateur. Là, nous étions à quelques 400 kilomètres de mes parents. Nous étions encore trop petits. Et puis après...
Vous êtes séparés de vos parents pour aller suivre votre cycle d'orientation?
Cycle d'orientation. À 13 ans déjà, on a quitté les parents.
À l'internat? C'était à l'internat?
Oui, c'était à l'internat, madame, des Américains. Missionnaire américain qui nous encadrait très bien comme des bons enfants. Et nous étions à l'aise. On n'avait pas tellement de soucis.
Ah, je comprends que vous avez grandi dans de bonnes conditions.
Oui.
Avec un papa enseignant?
Un papa enseignant, il faut dire que je ne souffrais pas comme tous les autres copains parce qu'à la fin de chaque mois, papa m'envoyait un peu d'argent et ça allait bien.
Et vous étiez quel genre d'enfant? Turbulent, timide?
Très turbulent, madame.
Ça se voit.
J'étais toujours très turbulent. Et mon papa ne me tapait pas, surtout ma mère qui me chicotait beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et je le remercie pour ça parce qu'à un certain moment, beaucoup de mes amis n'ont pas pu réussir dans la vie. C'est la main de fer de mes parents qui ont fait qu'ils m'ont façonné et je suis fier de leur éducation.
Alors, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans votre enfance?
Bon, il faut dire que dans mon enfance, c'est surtout la rébellion de 1964. Parce que quand les rebelles sont venus, nous étions séparés de nos parents.
Vous aviez à peine 12 ans.
J'avais 12 ans, effectivement, et nous sommes rentrés dans la forêt. Et j'étais avec mon grand frère.
Sans les parents?
Sans les parents, parce qu'il y avait panique. Nous sommes partis, nous avons fait 4 jours dans la forêt. Je parle de la forêt, pas de la bouche. Avec mon grand frère qui avait à peine 14 ans. Et voilà, nous sommes retrouvés avec les parents 4 jours après. Vivre dans la forêt, on vivait de fruits que les singes laissaient tomber. On a mangé, voilà.
Ça devrait être dur, hein?
C'était très dur.
Et vous étiez seul ou bien il y avait beaucoup d'autres personnes qui
s'étaient
enfuies dans la forêt?
Nous étions perdus avec mon grand frère. Et Dieu merci, ce sont des villageois qui nous ont repérés dans la brousse. Alors que la famille était en deuil, madame.
Et lorsque vous avez retrouvé les parents, c'était la fête?
Vous ne pouvez pas imaginer cette joie, ma mère a sautillé, elle est tombée sur nous, nous sommes tombés sur elle, papa est venu, tout le monde a pleuré. Bon, voilà, la famille s'est reconstituée. Nous avons dû résister et après, les choses se sont améliorées. C'est alors que quand l'école a été ouverte, puis nous sommes allés à Boindé. Et de Boindé, il fallait terminer les 4 ans des humanités à Bolengue, Institut chrétien de Bolengue. Mmh. C'est comme ça s'appelle, à 10 kilomètres de Mbandaka, où nous avons passé les 4 bonnes années. Et nous avons terminé avec brio les humanités.
Vous êtes détenteur d'une licence en pédagogie appliquée.
Oui.
Et d'un diplôme de l'École nationale des finances et administration bancaire.
Oui, madame.
Pourquoi avoir choisi la pédagogie, de faire la pédagogie? Vous vouliez suivre les pas de papa?
Oui, pas tellement ça. Moi, je voulais plutôt faire la médecine. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y avait ce qu'on appelait l'examen d'orientation après les humanités. Et alors, on m'a orienté vers la pédagogie. Disons, c'était vers l'université, le campus de Kisangani, comme on le disait. Et comme nous avions eu des problèmes, ainsi de suite, je suis arrivé en retard. Je fais la pédagogie appliquée au niveau de l'université. Et je viendrai terminer à l'université. à l'UPN. Ma licence où je fais une distinction à l'UPN et aujourd'hui je suis chef de travaux, je suis doctorant, je prépare ma thèse.
Et vous êtes satisfait d'avoir fait la pédagogie aujourd'hui?
Aujourd'hui, je
vous n'êtes pas trop déçu, même si vous n'avez pas fait la médecine, qui était votre premier choix au début.
Oui, madame, c'est vrai que j'étais obsédé de faire la médecine. Bon, parce qu'à notre époque, un médecin c'était considéré comme presque un devin. Mais voilà que aujourd'hui, je réalise que j'ai fait de bonnes études et au-delà des études, il faut aussi le courage de pouvoir s'adapter aux différentes conditions qui changent dans la vie.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, monsieur Ewanga?
Bon, il faut dire que je n'aime pas beaucoup les silences. Moi, j'aime là où il y a trop de bruit. Et c'est là où je dois m'affirmer. Je comprends pas, mais c'est comme ça, moi.
Donc, vous aimez vivre dans le bruit?
Dans le bruit, dans, je ne dirais pas dans les conflits, mais, et puis dans le...
Où ça bouge, quoi, où c'est vivant.
Où ça bouge, où il y a des discussions, où on échange, et il faut toujours faire un effort pour s'affirmer. C'est-à-dire que la vie, c'est un combat. Il faut toujours conquérir des espaces au quotidien. Parce que chaque jour qui passe, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une bataille qu'on gagne. Et si dans la vie, vous croisez le bas, vous êtes dépassé.
Et c'est ça que vous faisiez quand vous étiez enfant. Vous vouliez vous affirmer.
C'était ça, et même quand nous étions 5-10 enfants, je voulais toujours être le chef. Et c'est ça qui posait des problèmes souvent. Et certains aînés arrivaient à me tabasser parce qu'ils ne considéraient pas qu'un jeune garçon comme moi, je pouvais me permettre de les commander. Bon, je crois que maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a essayé d'arrondir les angles.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, aujourd'hui, père de 6 enfants.
Vous aimez le sport?
La marche. Aujourd'hui, c'est la marche.
Avant, c'était quoi?
C'était le basket. À l'Institut chrétien de Bolingue, je faisais le basket. Mais aujourd'hui, c'est la marche. La marche. Parce que, vous savez, il faut éliminer le volume du ventre qui pousse au jour le jour. Je suis dans une famille où des gens qui sont naturellement gros, bon, il faut faire un effort de maigrir avec tout ce que nous avons comme maladie et difficulté de la vie.
C'est quoi votre plat préféré?
Madame, j'ai un régime très compliqué parce que qu'est-ce que je bouffe souvent ici, ce sont des légumes. J'aime manger les légumes parce que j'ai toujours des problèmes de constipation quand je consomme viande et autres. Je suis beaucoup à l'aise quand je consomme des légumes.
Radio Capi, grand témoin.
Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Bertrand Ewanga. Il est en politique congolais, ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Actuellement, il est secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise. Parlons de votre parcours professionnel. Je l'ai dit dans l'introduction, vous avez passé une grande partie quand même de votre carrière dans l'enseignement.
Oui, quand j'ai terminé mes études à l'UPN, mon église qui m'avait accordé une bourse d'études me désigne comme conseiller d'enseignement. C'est un adjoint des coordonnateurs des écoles. Donc, ils m'ont affecté à Bokungui, qui est là où j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans. Alors, après ce travail, je me suis présenté comme député provincial à l'époque, quand on parlait de conseiller régional. Il y avait à une époque, on parlait sous mon groupe conseiller régional.
De conseiller régional, oui.
Où j'ai été élu conseiller pour mon groupement, et puis pour mon secteur, et puis suppléant à l'Assemblée provinciale.
Là, vous aviez déjà quitté l'enseignement?
Non, je suis encore enseignant. Okay. Je suis encore enseignant. Et puis, après quelques années dans l'enseignement, et comme j'avais fait une distinction à l'IPN, j'ai été rappelé à l'IPN pour poursuivre ma carrière scientifique.
Et donc, vous êtes passé de Kisangani, Équateur, puis Kinshasa, vous avez enseigné dans toutes ces provinces?
Les gradués à Kisangani et la licence à l'IPN.
Non, vous avez donné cours dans certaines écoles de Kisangani.
Kisangani à l'Éthénée de Kitenge, et je fus professeur d'esthétique, de français et d'histoire.
À l'Équateur aussi, vous avez donné cours?
À l'Équateur, non, j'ai été... quand je suis reçu, je suis d'abord nommé préfet à l'Institut Ndeke, une école à Mondombe, à Ikela, et puis de là, je suis comme je vous ai dit, promis comme conseiller d'enseignement. Et de là, et puis l'église me nomme, je deviendrai directeur de cabinet du président de l'église communautaire.
C'est l'église protestante?
Protestante, la 10e communauté des disciples du Christ. Et puis après, je serai désigné conseiller d'enseignement secondaire pour toutes les écoles protestantes de l'Équateur. Et puis après, je vais décider d'arrêter mes prestations à l'église pour reprendre ma carrière scientifique comme assistant à l'université.
Un enseignant à votre époque avec quel train de vie? Parce qu'aujourd'hui, on voit comment les enseignants souffrent quand même. Dites-nous un peu, à votre époque, un enseignant, il était comment? Comment il vivait?
Non, il passait des moments aussi difficiles comme aujourd'hui.
Ah bon?
Parce que oui, moi je commence à enseigner depuis les années 78, et nous sommes en pleine crise. Les choses n'ont pas tellement évolué pour les enseignants, ces pauvres personnes qui servent, qui forment, qui éduquent l'avenir de toute une nation, la jeunesse. Et ça a toujours été le cadet des soucis des autorités du pays. Et je crois que même aujourd'hui, les salaires arrivent dans l'arrière-pays difficilement. L'enseignant est l'enfant pauvre des années de l'indépendance, du moins c'est dans notre pays.
On n'accorde pas assez d'importance à ce secteur, c'est ça?
Oui, parce que mon papa qui était enseignant, il n'avait pas à nous envier. Il n'était qu'un simple moniteur de l'école et papa savait habiller la famille. On pouvait acheter une radio. Papa changeait de bicyclette presque chaque année. Mais aujourd'hui, un enseignant ne peut pas se taper sur luxe.
Et donc l'enseignant de l'époque coloniale était mieux payé, vivait mieux que l'enseignant d'aujourd'hui?
Non, il n'y a pas de commune mesure. Cet enseignant vivait dans de bonnes conditions. Il y avait la considération. Et vous savez, à l'époque, la corruption, ça veut dire monnayer le point, ça n'existait pas. Les diplômes ne s'achetaient pas, du moins c'est le certificat, le brevet, le bulletin de l'école. Mais aujourd'hui, notre niveau d'enseignement baisse jour le jour. Je crois qu'il faut un regard. Il faut un regard parce que l'enseignement est l'avenir de toute la nation et il faut refaire les choses.
Vous avez passé quelques années dans l'enseignement et puis vous vous êtes détourné de l'enseignement pour vous lancer dans la politique.
Oui, mais celui qui m'a beaucoup attiré dans la politique, c'est Sakombi Nongo.
Comment ça?
Sakombi, quand il faisait les comptes rendus du gouvernement, il avait une très belle expression et ça attirait beaucoup toute mon attention. Et je me disais un jour, pourquoi pas devenir comme cet homme? Il était mon idole. Mm-hmm. Et quand nous sommes arrivés à l'université, bon, il est venu un jour à Kisangani, il a tenu une grande conférence pour les étudiants. Je l'ai abordé, j'ai dit, moi je suis un de vos admirateurs. Bon, on a commencé à se communiquer, ainsi de suite, et j'ai découvert par la suite que j'avais une vocation d'être politique, et politique dans le sens de servir notre peuple. Notre peuple a besoin d'un service.
Servir notre peuple, alors qu'aujourd'hui on critique beaucoup les politiques congolais, on dit qu'ils font la politique du ventre, je dirais, ils sont là pour leurs propres intérêts, et le peuple vient après.
Vous avez raison, madame, c'est ce qui est triste pour notre pays. Il faut dire que tout commence par les indépendances. La Belgique a une part de responsabilité dans ses comportements parce qu'elle n'a pas préparé une classe politique. Vous voyez, dans les pays de l'Afrique occidentale, Senghor était déjà député alors qu'ils étaient en colonie, ou Fouet-Boigny était déjà ministre alors qu'ils étaient en colonie. Tout ce monde était préparé et vous voyez qu'il y a une différence entre nous. Bon, il faut dire que chaque peuple a son histoire. Avec le temps, les choses pourront s'améliorer pour notre pays.
Et donc vous rejeter la responsabilité un peu sur la Belgique.
Oui,
mais les Congolais ils peuvent s'améliorer. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas préparé la classe politique congolaise qu'il faut se comporter de la sorte?
Madame, il y a un adage qui dit que l'histoire nous poursuit. L'histoire nous poursuit et c'est cette histoire lacunaire qu'il faut corriger. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Congolais d'aujourd'hui usent de la politique haute droite de là pour que je m'y mette. Le berger est parti, nous avons quitté ses maisons, ses immeubles, mais nous n'avons pas su comment il les a construits. Et bon, nous avons eu une classe politique qui bénéficie des avantages sans fournir un effort, et voilà le résultat. Mais je suis optimiste, madame, je ne regrette pas, il ne faut pas tellement voir la Belgique. Ça c'est le passé, les Congos est en train de se refaire et de s'affirmer sur l'échiquier de la nation en dépit de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme difficulté.
On va parler de votre parcours politique.
Bon, voilà madame, je vous ai parlé de M. Sakombi Nongo et puis en 89, je suis en contact avec le professeur Marcel Yaou, un des fondateurs de l'UDPS.
De l'UDPS.
Oui, nous avons eu des échanges de lettres. Et puis après, quand en 90 Mobutu provoque la démocratisation, nous nous retrouvons au niveau de l'UDPS. Et je suis envoyé à l'Équateur comme le président fédéral
de l'UDPS.
De l'UDPS Équateur. Et ce n'était pas facile à l'Équateur, madame.
Parce que c'était la province du chef de l'État quand même.
La province de son excellence, fils du coin. Et quand il arrive au port un jour, alors que nous avons affiché des calicots pour lui demander chaque fois quand il vient en Mbandaka, le prix de poisson augmente avec son bateau présidentiel. Alors nous avons été pourchassés, j'ai été menacé, arrêté. Et c'est ainsi que Étienne Tshisekedi, un des membres du directoire, a décidé que je quitte Mbandaka parce que je courais beaucoup de risques pour ne pas perdre ma vie.
Ça faisait quand même bizarre que vous puissiez être contre le président Mobutu alors qu'il était votre frère, il était de la même province que
madame,
vous.
Madame, on nous considérait nous comme des pestiférés. Nous étions considérés comme des cancrelats écrasés, ce n'était pas normal. Et surtout qu'à cette époque des années 90, quand Mobutu a ouvert la démocratie, il a ouvert aussi les vannes. des Mikomboso, ça vous rappelle le billet oui. des banques à profusion qu'on divisait, et tout le monde avait sa part, et nous étions considérés comme des petits cancrerats qu'il fallait écraser.
Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le régime de Mobutu?
Madame, parce que Mobutu, au bilan de son action, à la fin de son mandat, son bilan à l'Équateur a été largement négatif. Quelque chose a été fait à Guadolité, mais c'est fermé, ce n'est pas tout Guado qui a profité. L'Équateur, même aujourd'hui, est la province la plus pauvre. Mm-hmm. Et contrairement à ce qu'on a raconté, il y avait des querelles intestines au niveau des groupements ethniques, au niveau de l'Équateur, alors que Mobutu, qui a commencé avec tous les enfants de l'Équateur autour de lui, et quand c'est fini, c'est un clan qui récupère la situation, mais sur le plan de réalisation, madame, sans le risque d'être contredit, le bilan de Mobutu, de M. Mobutu à l'Équateur a été très largement négatif.
Mais les fils de l'Équateur qui travaillaient avec le président, ils ne pouvaient pas prendre cette initiative-là d'organiser un peu les choses dans la province?
Oui, madame, je me souviens des dignitaires de l'Équateur, quand on lui a posé la même question, il nous a dit, est-ce que vous avez déjà vu deux coqs chanter sur le même toit? Vous voulez que nous on construise des villas comme Mobutu à Guado, il va venir les raser? Et c'est vrai, nous ne savons pas. Et un jour, je posais la même question au maréchal Mobutu lorsque nous nous sommes retrouvés dans son bateau en Mbandaka. Je lui ai dit, mais
c'est monsieur, à quelle occasion?
Mais à l'occasion, il a reçu le parti politique. Voilà, je dis, monsieur le président, maintenant que vous avez déclenché la démocratisation, quel est votre bilan à l'Équateur? Il m'a dit, monsieur, vous avez raison de poser cette question. Moi, j'avais mes amis à l'Équateur. Renseignez-vous, j'ai viré des milliards pour que eux aussi construisent l'Équateur. Aujourd'hui, voilà. Ils n'ont rien fait, vous me dites que c'est moi. J'ai posé la même question à ces caciques. Ils m'ont dit, mais ils vous trompent. Alors, qui dit la vérité? Je ne sais pas, mais l'Équateur est resté pauvre. Et puis l'Équateur, vous savez, madame, le courant de Inga. Si vous êtes arrivé une fois de suivre Congo River, je passe dans une émission là où je présente les pylônes qui ont été planté en Mbandaka, attendant les câbles de Inga qui viendront de Bandundu, et jusqu'à ce jour. Donc le peuple de l'Équateur a été roulé, et nous avons compris qu'il faut aller dans l'opposition, peut-être qu'Inusis partira de là.
Vous avez géré aussi cette province, monsieur Ewanga. Quel est votre bilan à vous? Parce qu'il y a des gens aussi qui critiquent votre bilan, vous n'avez aussi rien fait pour cette province.
Mais madame, vous avez raison. Mais quand est-ce que moi j'arrive à l'Équateur? C'est lorsque le président Kabila, Joseph, passe président de la République. Je suis proposé par M. Kibasa Maliba, parce qu'avec le temps, entre Kibasa et Tshisekedi et Issition, nous avons rejoint Kibasa Maliba, et je crois que c'est Kibasa Maliba qui m'oriente avec l'appui de Mwenze Kongolo. Et c'est alors que je deviendrai gouverneur dans la province de l'Équateur pendant la guerre. Moi, j'ai géré les morceaux gouvernement de l'Équateur. Il y avait un autre morceau géré, le Nord, par le MLC, et une autre partie dans le sud, vers la Tuapa, gérée par les RCD. Il faut attendre, pendant la guerre, nous étions en guerre, madame. On ne pouvait pas me demander un bilan. La plus grande victoire, c'était de réunir l'Équateur. Voilà qu'en 2003, il y a le dialogue de Sun City, l'Équateur le réunifié, tout le monde est arrivé ici en 2004.
Est-ce que c'est à votre actif, cette réunification de l'Équateur?
Je crois, parce que je suis allé déjà plus d'une fois dans le front, au front. Je suis arrivé à Buburu, je suis arrivé vers Mampoko, c'était dans la ligne de front. Je suis arrivé à Bolomba, c'est-à-dire quand mon hélico décolle, je vois de l'autre côté les rebelles qui me pointent les armes. Nous avons pris beaucoup de risques, madame. Et voilà que la victoire, le peuple congolais a gagné quand l'Équateur s'est réunifié. Et dans le souci de sauvegarder le pays, nous avons été obligés de quitter la province. Et toujours au niveau du PPRD, parce que je signale en passant que je suis un des fondateurs. Je fus un des fondateurs du PPRD.
Mais justement, je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous avez quitté la majorité pour rejoindre l'opposition aujourd'hui. Vous étiez d'abord dans l'UDPS, l'opposition, et puis majorité, et puis opposition. Vous n'êtes pas constant, monsieur Wanga.
Mais je crois que c'est une certaine constance intérieure. Parce que la lutte que nous menons, nous ne nous retrouvons pas. C'est-à-dire que ce que vous venez de le souligner ici, le peuple ne se retrouve pas dans ce que nous faisons. C'est pas tellement le matériel qui nous préoccupe, madame. Mais nous avons de très bonnes idées. Voilà. Quand je suis devenu, je quitte le gouvernorat de l'Équateur, je deviens député de transition. Mm-hmm. Alors, je fais la députation de transition. Et à la fin, il faut aller aux élections. Et voilà que le PPRD dresse sa liste de députés. On me laisse. On me laisse parce que il y avait des gens chez nous, au niveau du parti, qui ne voulaient pas de ma tête. Ils considéraient que...
Pourquoi? Parce que vous étiez de l'Équateur?
Non. Mais
rien à voir avec la province?
Non. Mais sur la liste de l'Équateur, justement, les amis des amis ont retiré, il ne faut pas citer certaines personnes, que leurs âmes reposent en paix. Alors, j'ai été écarté de la liste.
Et c'est ça qui vous a choqué?
Bon, après, 48 heures après, on me rappelle par M. Tissambo, il était alors conseiller politique de M. Kabila, qui me dit, quand le président de la République a contrôlé la liste de l'Équateur, il n'a pas vu ton nom, il l'a inséré. Et maintenant, tu dois partir sur la liste du PPRD. Et puis, vous savez, madame, sur 35 candidats dans l'ensemble de la circonscription de l'Équateur, et nous sommes revenus trois. C'est-à-dire, moi au sud et au nord, il y en avait deux.
Et là, c'est pendant les élections de 2006. Vous avez été élu député national.
Député national. Et voilà que nous sommes là.
Mais pour ce geste-là, vous soyez quand même reconnaissant par rapport à ça, à la majorité. Pourquoi vous avez claqué la porte?
Mais j'ai claqué la porte, madame, parce que c'était une majorité qui n'avait aucune vision pour l'avenir. C'était ça le grand problème.
Mais en adhérant à la majorité, vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas de vision pour l'avenir?
Mais en créant le PPRD, nous voulions que les choses changent dans ce pays. Nous voulions que c'était le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Mais la fameuse reconstruction ne vient pas, à part quelques routes qu'on nous monte à Kinshasa ici au prix exorbitant, mais le pays dans l'arrière-pays s'est abandonné, et puis on ne pouvait pas continuer, et il y avait cette histoire de Vital Kamerhe, et nous avons considéré que Kamerhe avait une vision claire, et qu'il était marmené pour rien, et nous nous sommes dit, nous allons nous battre à côté de Vital Kamerhe pour restaurer sa vision qui était beaucoup plus claire et palpable que de tourner autour du pot. Comme
mais pourquoi vous n'avez pas essayé de changer les choses au sein même de la majorité?
C'était pas facile parce que la majorité, ils appelaient la haute hiérarchie. Mais c'était qui, on ne savait pas. Est-ce que c'était le chef de l'État? Des fois, nous vérifions l'information, ça venait pas de lui. Et nous avons compris que c'était des combines de copains et qu'on pouvait pas continuer à soutenir de telles thèses. Et ceux qui sont là, écoute, ils ne nous donnent pas tort. Bon, certains nous donnent raison, madame, pour avoir quitté. Et puis aussi, c'est de la dynamique. Mais vous avez posé une question intéressante. Est-ce que vous êtes constant? Oui, c'est la constance. Parce que ma constate, c'est que jusqu'ici, nous n'avons pas encore répondu à la préoccupation de notre peuple. La vraie constante se trouve du côté du peuple. Et chacun joue son rôle pour un temps, peut-être qu'il partira un jour, et sûrement.
C'est que vous dites là, ça vient vraiment du fond de votre cœur?
Oui, ça vient de mon cœur, parce qu'au fond, ça doit nous interpeller, madame. Mais je crois que le problème, c'est l'homme. Et c'est la vision. Et c'est pourquoi nous avons dit, et a décidé de suivre Vital Kamerhe. Parce que nous pensons qu'en lui, mais cet homme... Essayez d'échanger avec lui sur différentes questions de la vie nationale. Vous comprendrez qu'il suffit d'appliquer et que nous pouvons sortir de cette crise même dans 3-4 ans et on peut résoudre les problèmes du Congolais. C'est un problème de volonté et de leadership.
Alors on dit que les politiciens congolais, ils sont champions en beau discours. Hein. Quand ils vous font des discours, vous pouvez penser que demain les choses vont changer dans ce pays, alors que c'est même pas le cas.
Madame, vous avez raison parce que Mobutu dirait, gérer le Congo n'est pas chose facile parce qu'il y a beaucoup d'implications extérieur. Tout le monde attend d'ici pour profiter des richesses qui sont ici. C'est ainsi qu'on va prendre une décision ici. Il faut savoir quelle est la force sous-régionale. Aujourd'hui, c'est l'Angola. Et puis, quelle est la force régionale? Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Et puis, il y a les grandes puissances, les États-Unis et autres. C'est ça que la décision et l'affirmation n'est pas facile ici.
Avant de parler de l'UNC, le parti politique dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de ce parti, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente, monsieur Ewanga?
Vous savez, avec la situation actuelle, les moments de détente, souvent je me retrouve à côté de mes frères Mongo, j'aime suivre Mabélé ici, dans les
qui nous a quittés,
mais il y a des jeunes gens qui s'affirment, il y a un bon groupe là, et ça nous donne de bons souvenirs du village, surtout les soirs quand on est autour du feu, et c'est bon d'être là, et puis qu'est-ce que vous voulez, un peu de distraction avec les amis comme toujours, comme
alors je comprends
bon
que vous aimez le folklore mongo.
Oui, mais parce que moi-même je fais ma thèse sur la culture mongo. Je vais étudier les hydronymies mongo, les noms de sources d'eau mongo, je fais une analyse thématique là-dessus, il faut ancrer parce que c'est une grande richesse la culture mongo, madame.
Alors, il y a des gens qui disent que le folklore mongo est impudique.
Vous savez.
Vous confirmez cela?
Non, je ne confirme pas. Je crois que les mongos ont droit de voir les choses comme ça parce que même vous allez en Europe, tous les monuments nus là-bas parce que l'art n'a pas de morale. Et vous trouverez en Belgique, il y a un petit qui ruine là, un petit monument qui est en train d'uriner. Donc, je crois que c'est l'expression artistique et l'art n'a pas de morale et cela est universel. Bon, impudique, il faut relativiser les choses, madame, parce que il y a des familles mongoles très sévères. Ne pensez pas que c'est toujours facile et qu'on piétine les normes les plus modernes de la politesse et de l'éducation.
Alors, on va vous faire plaisir, monsieur Wanga, en vous proposant un folklore mongo de Mabélé Elissi, justement. Comme ça va nous détendre un peu, hein,
merci,
avant
madame,
de passer à la seconde partie de l'émission consacrée à votre parcours maintenant dans l'UNC.
Merci
Willem de nous balancer une belle chanson de Mabélé Elissi pour le plaisir de notre invité Jean-Bertrand Ewanga. Également pour le plaisir de tous les Banikanga qui nous suivent en ce moment à travers le pays, particulièrement dans la province de l'Équateur, mais aussi tous ceux qui nous suivent à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Alors on y va, Willem, pour la chanson.
Yeah. De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Bertrand Ewanga. Il est en politique congolais, ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Actuellement, il est secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise. C'est un parti politique de l'opposition. Monsieur Ewanga, pourquoi vous avez suivi Vital Kamerhe? Vous avez déjà commencé à nous... Vous avez dit ça déjà dans la première partie. C'est parce qu'il a une vision différente de la majorité dans laquelle vous étiez, vous apparteniez avant.
Oui, il avait une vision différente. J'ai plutôt suivi ses idées et pas l'homme. Vital, c'est un homme, il a ses faiblesses et autres. Mais l'homme a une vision claire de ce pays. Et ben, je crois que c'est de par sa formation, c'est un économiste et il a fait l'économie rurale. Il a une vision claire. Et puis, ce que j'aime à Vital Kamerhe, c'est cette volonté d'aller de l'avant. Cette volonté, et puis le sens de l'autre, disons de servir, l'ouverture à l'autre. Et nous avons pensé qu'il raconte nos aspirations profondes et que lui, il a une obsession de la gestion d'un autre Congo qui est possible. Et je crois que nous pouvons être avec lui comme des lieutenants valables pour l'accompagner dans ce parcours.
Et comment se porte le parti ?
L'INC se porte très bien. L'INC se porte très bien. Nous, vous savez, madame, nous sommes sortis dans la précipitation. Après les élections passées, nous avons eu 18 députés, ce qui est un record. Nous avons dépassé même certains partis cinquantenaires dans ce pays. Et le parti se porte très bien à travers la République, mais il faut dire que les élections nous ont beaucoup essoufflés. Et petit à petit, nous commençons à reprendre.
Alors, une petite question en passant rapidement, Monsieur Ewanga. Comment vous répondez à toutes ces personnes qui estiment ou qui pensent que le président de votre parti politique, Vital Kamerhe, fait le jeu, joue les jeux de la majorité présidentielle et qu'il n'est pas tellement dans l'opposition. Il a un pied dans l'opposition et un pied dans la majorité, donc on ne comprend pas très bien son jeu.
Oui, c'est ça, madame. Vous savez qu'il y a une complicité entre Kabila et Kamerhe à un certain moment dans la vie politique. Et je vous assure, si les gens sont sincères, ceux qui sont autour de Kabila le savent. S'il y a quelqu'un que Kabila n'aime pas, c'est Vital Kamerhe.
Mais dire aux autres... tout ce qui se raconte, c'est faux.
C'est faux et archi-faux, madame. Et tout ce monde n'apporte même pas une photo, un alibi, un élément qui peut convaincre. Je peux vous dire que Vital Kamerhe, monsieur le président de la République, n'est pas notre ennemi. Non, nous sommes des adversaires politiques. Alors, dire que nous faisons ça politique, c'est trop rêvé. Écoutez, Vital Kamerhe, c'est un homme qui a toujours arrondi les angles. Et je peux vous confirmer, madame, il n'y a aucun lien.
Alors, monsieur Wanga, on va parler actualité. Ce qui fait débat aujourd'hui dans le pays, ce sont les concertations nationales.
Voilà, madame, voilà.
Vous vous êtes trop exprimé par rapport à ça. L'UNC est contre ces concertations nationales créées par le chef de l'État. Vous aviez posé des conditions avant de participer à ces concertations. Il y avait entre autres qu'il y ait une médiation internationale.
Oui.
On vous l'a accordé.
Oui.
Mais malgré ça, vous tenez toujours à boycotter ces concertations. Pourquoi ?
Madame, ils pourront aller avec leurs concertations. Nous considérons cela comme un congrès du PPRD allié. Parce que le président de la République, en prenant son ordonnance, en créant les concertations, mais il nous impose déjà un bureau. Et non seulement il impose un bureau, un des membres du bureau dit, il a obtenu, madame, nous sommes dans un monde de l'écriture. Lorsque des choses pareilles se font entre l'opposition et le pouvoir, il doit y avoir un communiqué commun. Il n'y a pas un document. Et tout le monde dit, oui, on a obtenu, mais vous avez obtenu toutes les résolutions qui seront décidées. On va les transmettre à qui ? Au président de la République. Et s'il y a des choses qui touchent à sa personne, il ne saura pas les appliquer. Donc c'est pourquoi nous disons, et madame, nous ne regrettons pas parce qu'il y a des collègues qui sont partis. Beaucoup vont quitter d'un moment à l'autre. Vous allez suivre ça. Ils vont abandonner parce que tel que le secrétariat technique, une affaire de la majorité présidentielle. Tout le monde est de la mouvance. Maintenant, au niveau de ce qu'ils appellent comité préparatoire. Ils disent que c'est un comité préparatoire informel. Madame, nous vous disons sincèrement que nous ne trouvons pas notre compte parce que nous venions du conclave. Avec les amis, nous avons d'abord fait notre déclaration du 1er juillet où tous les signaux étaient clairs. C'est-à-dire que nous voulions un comité préparatoire, tripartite et paritaire. Nous avons exigé qu'il y ait un facilitateur, la place du représentant spécial du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que tout part de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba. Tout part aussi de la résolution 2098 qui a été signée par le Conseil de sécurité. Mais l'impression qu'on veut nous donner, les chefs de l'État et ses proches veulent nous donner l'impression comme quoi nous voulons, nous, c'est notre affaire intérieure. Mais monsieur, vous avez échoué. Le bilan est négatif, même si Leblanc se félicite sur le travail du premier ministre, Matata. Il semble qu'il fait du bon travail. Bon, nous n'avons...
Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il fait du bon travail.
Et il semble qu'il fait du bon travail. Nous n'allons pas être des suivistes. Et nous leur disons et leur souhaitons bonne chance.
Et madame, si on vous accordait tout ce que vous demandez, vous êtes prêt à participer à ces concertations?
Accorder ce qu'on va nous donner, c'est-à-dire un comité préparatoire, donné et que monsieur le président de la République du Congo voisin doit pleinement assurer son rôle de médiateur. Madame Rebenson doit être là comme son œil, et M. Kobler, qui est ici, il doit faire la facilitation.
Est-ce que ce n'est pas trop, quand même, ce que vous demandez, M. Wanga?
Mais le Congo est très malade, madame. Et aussi, où sont les groupes armés? Les groupes armés, on les exclut. Vous avez vu, dans un même pays, on a deux négociations. Il y a les concertations de Kinshasa et les concertations de Kampala. Ça veut dire quoi? Donc, nous allons tourner autour du pot. Et le danger aussi, madame, c'est qu'on veut nous amener dans un gouvernement d'union nationale pour réviser la Constitution. Ça veut dire que nous allons reconduire les autorités en place aujourd'hui.
Ça, c'est votre interprétation.
Très logique. Ça veut dire que si vous regardez sur ma tête, il y a des cheveux blancs qui poussent. C'est l'expérience politique que nous savons et que le langage politique ne se dit pas toujours par la bouche et même pas le geste et les coups d'œil et les clins d'œil. Nous savons, nous avons prédit, nous avons dit que Maluma lui allait revenir, il est là. Et nous vous disons qu'on va réviser la Constitution avec le schéma de proposer un gouvernement d'union nationale.
Et donc c'est parti pour le blocage, comme une grande partie quand même de l'opposition refuse de participer, de prendre part à ces concertations.
Mais nous ne bloquons pas le congrès de la majorité pour fonctionner. Ça, c'est leur travail.
C'est des concertations nationales.
Non, nationales, oui. Moi, nous pouvons aussi réunir un congrès national de l'Union pour la Nation Congolaise. Donc, eux, ils ont conçu leur... Quelques opposants les ont suivis. S'ils pourront poursuivre le chemin avec eux, c'est normal, ça arrive. Ce n'est pas la première fois que les opposants rejoignent le pouvoir. Mais nous considérons que notre place n'est pas là et nous leur souhaitons bonne chance.
Alors, une réaction par rapport à la déclaration de M. Kengo, président du Sénat, président du parti politique UFC, d'ailleurs, avec qui vous étiez en conclave au mois de juillet dernier, qui dit qu'à l'issue de ces concertations, on pourrait avoir un gouvernement d'union nationale.
Non, ça n'a pas été prévu au conclave. Ça, c'est une ambition personnelle du président Kengo. Le conclave n'a pas prévu ça. Vous pouvez voir nos résolutions. Rien n'a été prévu dans ce sens-là.
Mais comment vous analysez sa déclaration? Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration?
Mais ça n'engage que lui-même et que ceux qui le suivront pourront être avec lui dans le gouvernement par l'UNC.
Et même les concertations, si aujourd'hui l'UNC participe à ces concertations, c'est pour aboutir à quoi?
C'est pour aboutir. Nous nous sommes dit que les concertations actuelles, c'est pour donner une feuille de route à M. Kabila et son gouvernement pour que tout s'arrête pour eux le 19 décembre 2016. Et les concertations pouvaient nous permettre, parce que, madame, il y a tout ce qu'il y a comme la guerre à l'Est, comment résoudre ces problèmes dans les 3 ans qui restent, le pillage de nos ressources naturelles, comment les résoudre, les prisonniers politiques et d'opinion qui sont dans les prisons de ce pays, comment est-ce qu'il faut les libérer, provoquer une réconciliation nationale, et nous voulons qu'au bout de son mandat, nous ayons un ancien président vivant. Vous savez, des pays comme la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ça fait un bonheur d'avoir quand même des anciens présidents. Et lui, il est encore jeune, 5 ans après, il peut toujours revenir, c'est pas mauvais.
Voilà, Monsieur Wanga, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Le temps passe tellement vite.
Merci, madame.
Nous sommes à la fin. Un mot à tous ces Congolais qui nous suivent partout en RDC, sur la fréquence FM et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net.
Le mot net, c'est qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. Et nous voulons souhaiter bonne chance à ceux qui tiennent leur congrès ou leur concertation pour qu'ils continuent leurs œuvres et que cela ne nous engage pas. Et que si d'aventure ils montent un gouvernement d'union nationale qui ne touche pas aux articles verrouillés 70-220. Parce que nous savons que le chef de l'État, il a déjà confié à ses pairs de la majorité qu'il laisse le pouvoir le 19 décembre à minuit. Et nous allons l'acclamer pour son départ et on va organiser les élections pour que le Congo retrouve sa place. Madame, le Congo c'est une puissance, sa place est géopolitique et géostratégique. Nous voulons pleinement jouer ce rôle pour le développement de notre pays, le bien-être de notre population et pourquoi pas de l'Afrique.
Et au peuple qui vous suit en ce moment, à la population congolaise qui vous suit en ce moment? Et
la population doit être en éveil. En éveil. Parce que vous veniez de dire ici que les politiciens congolais, ils ont toujours des discours succulents et qu'à la fin, on les récolte bien. Il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas jouer. Ils peuvent bouffer l'argent, ils peuvent piller les richesses et n'ont touché à la Constitution. Ne touche, et le Vital Kamerhe dit, ne touche pas à ma Constitution. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons faire du pays une grande force, le grand espoir pour l'avenir de nos enfants.
Monsieur Wanga, je vous remercie.
Madame, ça a été un plaisir pour moi de partager quelques instants dans votre radio qui fait le bonheur de tous les Congolais.
Merci beaucoup.
Merci.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jean-Bertrand Ewanga, Isewanga Ioka. Il est un politique congolais, cofondateur de l'UDPS, ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Actuellement, il est secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, un parti politique de l'opposition. Merci à Willem Lungamba qui est à la technique, au micro, Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.